Voilà, nous pouvons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 27. Actes, chapitre 27, verset 5. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes en un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporté par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Amen. J'aimerais que l'on aille ensemble aussi dans le psaume 107, pour voir ensemble quelques versets en lien avec ce que l'on vient de lire. Psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Amen. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Dans ces deux passages que nous avons lus, dans Acte 27, dans ce psaume 107, il est question de tempête et de port à atteindre. Et c'est une image, je trouve, très juste, très exacte, qui exprime vraiment la réalité de la vie. On a un port à atteindre, il y a un but que Dieu nous a donné, que Dieu nous a fixé pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez le but, quel est le but de votre vie. Certains ne saisissent pas, certains vivent sans but réellement précis, même si dans la vie on peut avoir différents buts ici-bas, au niveau professionnel, familial, social, il peut y avoir différents buts personnels, mais il y a un but plus important que tout cela. Le but de la vie, le but que Dieu a pour chacun de nous. Et ce but, c'est que nous soyons en paix avec Dieu, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous lui appartenions, c'est que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Voilà le but que Dieu a pour chacun de nous. Ce but merveilleux, extraordinaire, parce que personne ne le mérite. Aucun être humain ne mérite d'être sauvé. C'est la grâce de Dieu, c'est son amour immense qui nous accorde cela. Et c'est vraiment ce qu'il veut pour chacun de nous, je le répète, sans exception. Et comme dans deux passages que nous avons lus, dans la vie, il y a des tempêtes. Je ne sais pas si ça vous parle, les tempêtes, si vous êtes déjà passé par des tempêtes, par des épreuves, par des difficultés, si on a besoin ce soir de détailler, d'expliquer ce que représente ce mot, les tempêtes, aujourd'hui, je pense que tous, d'une manière ou d'une autre, on saisit, on comprend bien. Les tempêtes qui peuvent arriver de différentes manières. Quand on voit toutes ces familles éclatées, ces couples brisés, ravagés, quand on voit ces vies qui sont complètement désorientées à cause de toutes sortes d'esclavages, à cause de l'alcool, de la drogue, de toutes sortes d'addictions. On voit ces tempêtes qui peuvent être là dans la vie de plusieurs et qui font des dégâts. Mais ce soir, il y a une solution pour chacune de nos vies. Il y a une solution face aux tempêtes par lesquelles nous pouvons passer. Ce soir, peut-être que tu passes par des difficultés lourdes, difficiles, compliquées. Il y a une solution. Mais la solution, ce n'est pas pour Dieu d'enlever, d'ôter les tempêtes. Parce que Dieu permet les tempêtes justement pour un but. Pour que nous puissions nous tourner vers lui, pour que nous puissions nous approcher de lui. Parce que le besoin d'être sauvé n'existe que si l'on est conscient d'être perdu. Je ne sais pas si vous saisissez, vous comprenez bien cela. Le besoin d'être sauvé n'existe que si l'on est conscient d'être perdu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu permet des tempêtes dans nos vies, pour que nous saisissions bien la fragilité de l'homme, la brièveté de la vie, pour que nous saisissions bien combien nous sommes bien petits, que nous ne pouvons pas tout maîtriser, tout contrôler. C'est pour cela que Dieu permet ces tempêtes, pour que nous puissions saisir que, on est perdu, que l'on a besoin de lui. Et dans ces deux passages, c'est ce que ces deux groupes d'hommes vont expérimenter. Nous l'avons lu, nous l'avons vu dans ce dernier verset de Acte 27 que nous avons lu, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. C'était leur situation, ils saisissaient là, ils étaient bien conscients de leur perdition, ils étaient bien conscients qu'il n'y avait plus de solution humaine, ils étaient désespérés. Pourtant, c'était des professionnels on pourrait dire de la mer, des professionnels de la tempête aussi, certainement, qu'ils connaissaient, qu'ils avaient déjà expérimenté. C'était des hommes qui étaient qualifiés, c'était leur métier. Et on peut voir dans la Bible plusieurs exemples comme cela, tout comme dans le psaume 107. C'était des hommes aussi qui connaissaient la mer. Nous avons pu le voir au verset 23. « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. » Donc c'était des hommes qui travaillaient sur les grandes eaux, des hommes qui connaissaient la mer. Mais cela ne les a pas empêchés de se retrouver en difficulté, au milieu de tempêtes. Tout comme même les disciples de Jésus-Christ. On peut voir ce passage dans Marc 4, où on voit encore une autre situation, une autre tempête dans la vie des disciples que Jésus-Christ a choisi, des apôtres qu'il a choisis pour le suivre. Et on peut voir ce passage dans Marc chapitre 4, verset 35. Nous pouvons lire ensemble. « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Amen. Il y eut un grand calme. C'est interpellant de voir comment ce passage commence. C'est Jésus qui a donné l'ordre, passons sur l'autre bord. C'est ce qui nous montre que même dans la vie de ceux qui ont accepté Dieu, même dans la vie de ceux qui se tournent vers Dieu, de ceux qui choisissent de marcher dans ses voies, eh bien qu'il peut y avoir des tempêtes, que Dieu permet. pour nous apprendre. Il y a un but à cela, pour nous apprendre à dépendre de lui. Parce que là encore, les disciples, c'était des hommes qui connaissaient la mer, c'était des pêcheurs de profession. Donc ils savaient, ils avaient dû très certainement à plusieurs reprises expérimenter ces situations où ils devaient s'être retrouvés en difficulté. Mais là, c'était plus compliqué. Nous avons vu, il s'était élevé un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Et ils ont essayé par eux-mêmes, par leur propre force, et ils ont essayé avec leur technique, leur méthode, ce qu'ils avaient appris pour essayer de s'en sortir, mais ils n'y arrivaient pas. Là aussi, ils ont perdu espoir et très certainement que, eh bien, ils ont saisi qu'ils étaient sur le point de périr. C'est ce qu'ils vont dire à Dieu, c'est ce qu'ils vont dire à Jésus-Christ. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais nous voyons comment Jésus-Christ, par la suite, va intervenir et va agir. Comment il va ramener un grand calme sur cette mer. Et c'est beau de voir que ce passage commence avec un grand tourbillon, mais que parce que Jésus était là, parce que Jésus était dans la barque, parce que les disciples, à un moment donné, se sont arrêtés de faire par leur propre force, mais ont choisi de se tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ, parce que Jésus est Dieu, parce que Dieu est Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a tout pouvoir sur les éléments, sur la nature, pour arrêter les tempêtes. À lui, tout est possible. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage. Et nous voyons comment, par la suite, il y a eu un grand calme. Et c'est vraiment ce que Dieu veut. Nous puissions, ce soir, repartir avec ce grand calme. Réellement, dans nos vies, dans nos cœurs, cette grande paix, c'est ce qu'il veut nous donner face aux épreuves, aux difficultés de la vie, et quelles qu'elles soient violentes ou pas. En tout cas, ce qu'il nous faut retenir pour être perdu, c'est qu'il n'y a aucun effort à faire. Pour être perdu, ce n'est pas compliqué. Il n'y a rien à faire, parce que la parole nous affirme que nous sommes tous perdus, parce que nous avons tous péché. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que nous avons tous désobéi à la parole de Dieu, à ses commandements. C'est cela le péché. Et c'est ce qui met une séparation entre Dieu et nous. Et c'est ce qui fait que nous sommes perdus, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais ce soir, Dieu veut justement qu'on n'en reste pas là, mais qu'on se tourne vers lui, que l'on prenne conscience de cet état de perdition pour crier à lui. Et si ce soir, eh bien, vous êtes convaincu que vous êtes perdu, si vous n'avez aucune espérance et aucune paix intérieure, eh bien Dieu est là, Jésus-Christ est là, pour agir, pour intervenir. Il veut et il peut. Et c'est ce qu'il veut accomplir, répondre à votre cri de détresse. Parce que la Bible nous dit que Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans les tempêtes, on pourrait dire. Qui se trouve toujours dans les tempêtes. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. C'est vraiment la volonté de Dieu ce soir. Et pour cela, il a placé un phare. Comme nous l'avons chanté dans ce dernier cantique, il y a un phare que Dieu a placé pour nous conduire et nous diriger à lui. Vous savez que pour se diriger, quand on est, enfin voilà, en tant que marin, quand on est sur un bateau, pour se diriger, il y a plusieurs moyens. On peut utiliser les astres, les étoiles, les cartes, les boussoles, tout cela. Avoir une bonne connaissance des vents aussi, c'est utile. Mais il y a aussi cet élément qui est très important. Alors de nos jours, c'est plus toujours valable, puisque de plus en plus, il y a ces nouvelles technologies, les GPS, tout cela. Alors on n'utilise plus vraiment les phares de nos jours. Mais à l'époque, les phares avaient vraiment une très très grande importance. Et vous savez très simplement à quoi servaient les phares. Ils étaient là pour indiquer les zones dangereuses, les côtes, les récifs, les rochers, tout cela, mais en même temps pour indiquer où se trouvaient les ports. Et de la même manière, Dieu a aussi placé un phare pour nos vies, pour nos âmes, pour nous donner un message, parce qu'un phare donne un message. Les phares sur les côtes ou devant les côtes étaient placés là dans les mers pour donner un message, pour donner un avertissement sur les dangers et pour conduire, pour indiquer le chemin. De la même manière, il y a un phare, un message que Dieu a pour chacun de nous ce soir, qu'il veut nous donner. Nous le voyons déjà depuis le début au travers de ces passages. Mais j'ai eu à cœur de prendre ce mot, hein, de prendre ce mot, le phare, et de m'arrêter sur chaque lettre pour justement saisir le message que Dieu a pour chacun de nous ce soir. Alors dans ce mot phare, on trouve cette première lettre, le P, qui nous parle de la protection. Hein. On peut le prendre dans ce sens. Dieu, dans sa parole, nous montre que c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Dans la détresse, dans la difficulté, dans l'épreuve, comme quand tout va bien, ce que Dieu veut, c'est nous protéger, c'est nous garder. Et il est ce refuge vers qui on peut se tourner. Le psaume 91 nous montre cette protection pleine et entière qu'il est pour chacun de nous. Il est écrit dans ce psaume, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et cet abri, croyez-moi, croyez ce que Dieu nous dit dans sa parole, cet abri, il est sûr, il est solide, il est inébranlable. On sait qu'on n'a aucune crainte à avoir quand on cherche notre refuge en Dieu. Il est celui, oui, qui veut protéger nos vies, nos cœurs, et c'est pour cela qu'il nous appelle à remettre nos vies entièrement entre ses mains, à lui faire confiance. Et la prochaine lettre, c'est en lien avec cela, justement. Ce H de ce mot phare pour nous annoncer le message que Dieu veut, nous indiquer les zones dangereuses et la direction pour nous conduire à bon port, hein, ce H peut signifier se hâter, hein, hâte-toi de te tourner vers Dieu, hâte-toi de justement entrer dans ce refuge, hâte-toi d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, hâte-toi d'accepter sa grâce, d'accepter son pardon, d'accepter la guérison. On voit ce verset dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ va dire cela justement à un homme qui cherchait à voir qui était Jésus, qui était interpellé, qui avait dû entendre ce que Jésus-Christ avait accompli, les miracles qu'il avait pu faire. Et cet homme, il s'agit de Zachée, était un homme riche, mais c'est pas sa richesse qui a fait qu'il était comblé. C'est pas l'argent qui peut, on le sait, nous combler, nous rendre heureux. Il n'y a que Dieu seul. Et cet homme, dans justement sa situation, réalisait qu'il avait un besoin. Il avait besoin de voir qui était Jésus. Et il va chercher à le voir. Et pour cela, il va monter dans un arbre. Et quand Jésus va passer à cet endroit, c'est Jésus qui va se tourner vers Zachée. Et qui va lui dire, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et c'est la parole que Dieu nous adresse encore pour nous ce soir ici. Hein, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, dans ta vie, dans ton cœur. Il faut que j'y sois, il faut que je règne. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Jésus-Christ veut, mais il ne forcera personne. Par contre, la parole de Dieu nous appelle à nous préparer. Et c'est pour cela que je dis, il y a un avertissement dans ce message aussi. C'est un avertissement que Dieu nous donne en nous disant « hâte-toi » parce que Dieu nous dit « prépare-toi en même temps, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et un jour, nous allons tous nous présenter devant Dieu. Nous le savons, c'est ce que nous dit la Bible. Et seuls ceux qui auront fait la paix avec Dieu seront sauvés. Seuls ceux qui auront accepté Jésus-Christ, son pardon, seuls ceux qui se seront tournés vers lui, eh bien, pourront être avec Dieu pour l'éternité. C'est pour cela, ce soir, hâte-toi. Ne pense pas que demain t'appartient, parce qu'on le sait, on ne maîtrise pas le lendemain. Nous voyons, nous avons vu dans Acte 27 ce passage où il est écrit « se croyant maître de leur dessein ». Et il y a des dangers à se croire maître de nos desseins, à se croire maître de notre vie, à se croire maître de nos lendemains. On le voit, on voit les conséquences de cette telle attitude dans ce passage que nous avons lu. C'est aujourd'hui, ce soir, oui, tourne-toi vers le Seigneur. Il est là vraiment pour te bénir. Et la prochaine lettre nous le montre, ce A. À quoi ça vous fait penser ? Quand on part, quand on médite hein, sur la lettre A, à quoi directement ça vous fait penser? Vous êtes là, vous êtes avec moi ce soir. L'amour, oui, c'est bien, c'est ça. C'est une bonne réponse. C'est vraiment l'amour que encore Dieu veut déployer sur nos vies, sur nos cœurs ce soir. Répandre vraiment parce qu'il a, il a prouvé son amour envers nous. Il y a ce verset, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est l'amour de Dieu. Il nous a tant aimés. Et ce soir, il t'a tant aimé, au point qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu ici-bas, il l'a envoyé pour chacun de nous, d'une manière personnelle, pour venir nous secourir dans les tempêtes dans lesquelles nous pouvons être, dans les tempêtes par lesquelles nous pouvons passer. Dieu a envoyé Jésus-Christ, justement, pour ne pas nous laisser périr, couler, mais pour que nous puissions, être saisi par lui, pour nous retirer des grandes eaux, pour nous délivrer, pour nous laver, nous purifier de la boue du péché. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur cette terre, pour ôter le péché du monde. Et pour cela, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, volontairement, par amour pour chacun de nous. Volontairement, il a donné sa vie. Il a pris sur lui, à la croix, notre condamnation. Il a pris sur lui nos péchés, nos souffrances, afin que nous puissions être restaurés. Et la prochaine lettre nous amène à saisir justement cette grâce, à ce R de ce mot phare qui, je le rappelle, qui est là pour nous donner ce message d'avertissement, de zone, de danger, mais en même temps pour nous conduire à bon port. Ce R de phare nous indique la démarche pour saisir, c'est la repentance. C'est à cela que Dieu nous appelle, tout simplement ce soir, pour saisir sa grâce. En acte 3, verset 19, il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » Et tout simplement ce soir, Dieu nous appelle à placer, oui, notre foi en lui, notre conscience en lui, à reconnaître son œuvre à la croix, à accepter Jésus-Christ, mais à lui demander pardon. Pardon pour tous nos péchés. C'est ce qui nous donne d'avoir un cœur nouveau, un cœur pur. Et d'avoir nos péchés effacés, oubliés, c'est la miséricorde de Dieu. Il ne nous traite pas selon nos péchés, c'est sa grâce. On ne le mérite pas, mais c'est ce qu'il veut nous accorder. Et cette dernière lettre, le E de phare, est là pour nous indiquer aussi cette démarche à avoir dans cette continuité. Quand on accepte Jésus-Christ, Dieu nous appelle à l'écouter, à rester dans cette écoute. Vous savez, la différence qu'il y a entre entendre et écouter. Entendre, c'est j'entends ce qu'on me dit, j'entends le message, mais j'en reste là. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de suite. Écouter, c'est j'entends le message, mais j'obéis, je mets en pratique. Il y a un changement, il y a un choix, une décision. Et Dieu nous appelle, oui, à placer notre foi en lui, à croire en lui, mais à l'écouter. Et Jésus va dire que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà les vrais disciples. Voilà les vrais chrétiens, les vrais croyants, ce sont ceux qui demeurent dans la parole de Dieu, qui l'écoutent, qui la mettent en pratique. Et c'est vraiment hyper important parce que c'est ce qui nous donnera de marcher dans les voies de Dieu, c'est ce qui nous donnera de lui être agréable, d'entrer dans ses projets de paix et non de malheur, dans cet avenir et cette espérance qu'il a pour chacun de nous, quelles que soient les situations que l'on vit aujourd'hui. Mais c'est ce qui nous permettra d'éviter les erreurs. Et on voit encore l'exemple négatif qu'on a pu voir dans ce chapitre 27 par rapport à cela. Ce centenier qui a préféré écouter le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Il a préféré écouter, oui, des hommes qui avaient de l'expérience, qui avaient une connaissance, qui maîtrisaient le domaine, oui, de la mer, tout ça, toutes ces choses, plutôt que d'écouter le conseil de Paul, qui n'était pas un conseil humain, mais un conseil divin, un conseil qui venait de Dieu. Et cet après-midi, ce soir, Dieu nous appelle eh bien, à écouter, non pas la sagesse humaine, à ne pas rester à placer notre confiance sur des expériences, des appuis humains, des acquis, mais vraiment à écouter ce qu'il nous dit, à écouter sa parole, à écouter ce qu'il vient de lui. Parce que Paul avait parlé, mais ils ne l'ont pas écouté, et par la suite, c'est à cause de cela qu'il va y avoir ce naufrage. Et on peut voir dans le même chapitre, on ne l'a pas lu, cette histoire continue, et je vous encourage à la revoir, à la relire, à la méditer, pour vous, pour votre vie, votre situation. Mais on peut voir au verset 21 de ce chapitre, justement, Paul reparler de nouveau à l'ensemble de l'équipage qui était là. Il va dire, on voit ce verset, « On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter, il fallait m'écouter. » Et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Et on éviterait beaucoup de pertes, on éviterait beaucoup de dommages, si on était davantage à l'écoute de Dieu. Et ce soir, eh bien, vraiment, sachons entendre, mais sachons écouter. Pour éviter ces drames, éviter ces souffrances inutiles. En tout cas, dans ces deux passages, autant dans le psaume 107 que dans ce passage, dans acte 27, on voit vraiment la grâce de Dieu. Dans acte 27, on peut voir ce dernier verset de ce chapitre, hein, verset 44, ce dernier verset qui dit « Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. » C'est vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont su écouter par la suite, parce qu'ils ont su faire confiance à ce que disait Paul, ils sont tous arrivés à terre, sains et saufs. Et c'est vraiment ce que Dieu veut, qu'on puisse arriver à bon port, que l'on puisse arriver au but qu'il nous a fixé, que l'on puisse arriver dans sa présence, dans l'éternité, sains et saufs. De la même manière que dans ce psaume 107, où ils ont été délivrés, où la tempête s'est arrêtée et où Dieu a ramené le calme. De la même manière, c'est ce que Dieu veut faire dans les tempêtes par lesquelles nous pouvons passer. Et je le redis, il a placé ce phare. Ce phare qui, vous le comprenez, c'est plus que... C'est pas un phare, c'est une image, hein, bien sûr, que j'ai prise pour nous montrer l'œuvre de Dieu. Mais ce phare, c'est Dieu, ce phare, c'est Jésus-Christ. Il le dit, il est la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et ce soir, c'est vraiment l'appel de Dieu, l'appel de Jésus-Christ, que nous puissions le suivre, que nous puissions l'accepter comme étant le pilote, le patron du navire, celui qui gouverne, celui qui dirige et conduit nos vies, celui qui tient la barre. Peut-être que jusqu'à présent, c'est vous qui avez choisi par vous-même, qui avez pris vos propres décisions, qui n'avez pas prêté attention au conseil de Dieu et qui en payez les frais maintenant. Seigneur, il n'est pas trop tard, le Seigneur vous appelle à vraiment saisir qu'il est là. Il est là pour restaurer les vies brisées, les cœurs brisés. Il est là pour fortifier. Il est là pour changer le mal en bien. Comme dans ce passage dans Acte 27. Ils auraient dû rester à ce port. Ils étaient à Beauport. Ils auraient dû y rester. Ils ont voulu partir. Il y a eu des dommages, mais il y a eu la grâce de Dieu. Et maintenant, je ne sais pas par où vous êtes passés, les choix que vous avez pu prendre. Mais maintenant, le Seigneur nous appelle à lui faire conscience. La Bible dit, il marche dans la tempête. Il marche dans la tempête. Et je le redis, même dans la vie de ses enfants, Dieu permet les tempêtes. On l'a vu dans Marc 4, mais il y a d'autres passages aussi, où les disciples ont pu vivre et traverser des tempêtes. et dont une à un moment donné où Jésus était sur une haute montagne, et où la Bible nous dit qu'il les a vus. Il les vit et il vit qu'ils avaient beaucoup de mal à ramer, qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer et à atteindre l'autre rive. Et peut-être que c'est là ta situation ce soir, peut-être que tu as beaucoup de peine en ce moment à ramer, beaucoup de peine à avancer, de difficultés. Mais Dieu le voit, Jésus le voit, et il n'est pas insensible. Et dans cette situation, différente de toutes celles qu'on a vues, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu au milieu de cette tempête, qui a marché sur l'eau. Dieu marche dans la tempête. Et ce soir, il vient, il te rejoint et il te tend la main. Ce sera toujours lui le plus près. Ce sera toujours lui le plus près. Alors ce soir, eh bien, crie à lui. Tourne-toi vers lui avec foi, avec confiance, sans douter. Et tu verras vraiment le Seigneur agir et répondre à tes besoins. Et te donner ce dont on a le plus besoin, l'assurance du salut. La vie éternelle. J'aimerais qu'on puisse terminer ces moments par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de tout notre cœur et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu permets. Nous te rendons grâce, oui, parce que nous le savons, ta parole nous le dit, tu es celui qui fait concourir toutes choses à notre bien. Et nous ne voulons pas en douter, même au cœur de l'épreuve. Tu nous as prouvé ton amour, tu l'as manifesté envers chacun de nous en donnant ta vie à la croix. Oui, tu as mis le comble à ton amour pour chacun de nous. Et nous ne pouvons pas douter en regardant à la croix. Nous ne pouvons pas douter de ta bienveillance à notre égard. Merci Seigneur pour encore ta parole ce soir. Merci pour tes conseils. Merci pour tes avertissements. Merci pour ta lumière. Merci pour ton amour que tu déverses dans nos vies, dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu es là dans la tempête. C'est toi qui es le plus près. C'est toi encore ce soir qui tend la main pour secourir, pour fortifier. Tu vois, tu connais, Seigneur, la marche de chacun de nous. Tu connais les difficultés que certains peuvent avoir à ramer, à avancer. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas nous appuyer sur les efforts humains. Nous voulons nous confier en toi, nous appuyer sur toi, crier à toi. Seigneur, viens faire grâce encore à chacun. Viens, Seigneur, éclairer, te révéler, conseiller, diriger, Seigneur, et nous donner vraiment d'être sensibles à l'écoute de ta voix. Seigneur, tu vois vraiment, oui, ceux qui sont au cœur de l'épreuve. Nous l'avons lu dans ce psaume 107. C'est dans l'abîme qu'ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Et Seigneur, que dans Seigneur, ces ténèbres, Seigneur, par lesquelles certains peuvent passer dans ces épreuves, dans ces difficultés, dans ces tempêtes, Seigneur, que vraiment ils puissent voir tes œuvres, qu'ils puissent voir ta puissance, qu'ils puissent voir ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Amen.